Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une le recul de La République En Marche. Emmanuel Macron n'est pas certain d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La campagne de second tour qui a débuté ce matin s'annonce violente face à la NUPES. On sera avec Alexandre Chauveau auprès d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Avec Jacques Serret, on verra que plusieurs figures de la Macronie sont en grande difficulté. Et puis les enjeux de ce second tour avec Louis de Raguenel. Un drame à Strasbourg, également à la une de l'actualité. Strasbourg, un incendie a fait 4 morts, dont 2 enfants. On va vous raconter ce qui s'est passé. Avec Aurélien Fleuron, on verra que la Corse vient de voter, écoutez bien, un accès limité à certains de ses sites touristiques. Eh oui. Et puis Jacques Vendroux sera avec nous, car il lance son premier podcast avec Europe 1 sur les géants du foot. Le premier tour des législatives, on le décrypte avec vous. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne, vous connaissez la formule. On est également avec Prisca Thévenot. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour.
Porte-parole de La République En Marche et avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Bonjour Antoine Léaumont.
Bonjour.
Et à tout de suite tous les deux. Ensemble et la NUPES au coude à coude à l'issue du premier tour des élections législatives. La majorité présidentielle a réuni au total 25,7% des voix, 25,6% pour la gauche radicale, la NUPES. Si le résultat est très serré en nombre de voix, le camp macroniste est en meilleure position pour gagner la majorité des sièges au second tour dimanche prochain. Les projections lui en attribuent entre 255 et 295, la majorité est à 289, majorité absolue, 150 à 210 sièges. Ce sont des projections, hein, des sondeurs pour les candidats de la NUPES. La majorité absolue est donc fixée, je vous le rappelle, à 289 sièges. Il faut bien avoir ce chiffre en tête. La campagne en vue du second tour a donc d'ores et déjà commencé. La Première ministre Elisabeth Borne, en tête dans sa circonscription du Calvados, appelle à la mobilisation de ses troupes. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
La chef de la majorité donne l'exemple dès aujourd'hui en occupant le terrain.
Oui, Elisabeth Borne revenue tard hier soir dans le Calvados pour saluer ses équipes et attaquer dès aujourd'hui la campagne du second tour. La Première ministre en visite dans une imprimerie ce matin, mais plus que la candidate, c'est la chef de la majorité qui s'est exprimée il y a quelques instants sur les consignes de vote à donner en cas de duel entre le RN et la NUPES au second tour. 58 circonscriptions sont concernées. Écoutez la réponse d'Elisabeth Borne.
Notre position, c'est aucune voix pour le Front National. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel.
Voilà une forme de barrage au parti de Marine Le Pen tout en faisant du cas par cas pour les candidats de la NUPES. Pourtant, la position de la majorité était moins claire hier soir. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a d'abord invité les électeurs à apprécier la situation de manière locale. Elisabeth Borne, elle, poursuit sa campagne. Elle est en ce moment en train de s'entretenir par visioconférence avec les candidats de la majorité qualifiés au second tour.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Voilà, vous n'étiez pas loin de l'église, on l'a bien entendu. Bon résultat pour Elisabeth Borne, beaucoup moins pour d'autres figures de la Macronie. Jean-Michel Blanquer, par exemple, est éliminé dès le premier tour dans le Loiret, mais il accuse son concurrent investi par la NUPES d'avoir violé plusieurs règles électorales. L'ex-ministre de l'Éducation annonce même vouloir entamer un recours juridique. Élimination également de l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, dans le Val-de-Marne. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
D'autres grands noms de la Macronie ont, eux, obtenu leur billet pour le second tour, mais la victoire va être difficile à décrocher.
Hein. Oui, parmi les 15 ministres qui se présentent aux législatives, 3 sont réellement menacés après ce premier tour. Amélie de Montchalin d'abord, la ministre de la Transition écologique est sous pression dans sa circonscription de l'Essonne. Elle termine deuxième avec 31% des voix, derrière le candidat de l'Alliance de gauche, Jérôme Gage, 7 points de plus qu'elle. Elle est en ballotage défavorable. Situation tout aussi inconfortable pour Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, également patron d'En Marche, accuse 6 points de retard derrière la candidate de l'Alliance de gauche. Ballotage défavorable également pour Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe, face à la candidate de la NUPES, Caroline Mécari. Lui n'est pas ministre, mais c'est une figure de la Macronie. Patron du groupe des députés marcheurs à l'Assemblée, Christophe Castaner n'est pas assuré de l'emporter. Il est arrivé en tête dans sa circonscription des Alpes de Haute-Provence, mais il ne devance que très légèrement le candidat de l'Alliance de gauche. Même cas de figure pour le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, où le deuxième tour dans sa circonscription du Finistère face à une candidate NUPES s'annonce particulièrement incertain.
Merci beaucoup Jacques Serret. Quels enseignements peut-on tirer au lendemain de ce premier tour ? On voit que la gauche va de nouveau peser à l'Assemblée nationale. La droite traditionnelle limite la casse quant au Rassemblement national. Il va certainement enfin pouvoir constituer un groupe parlementaire. Il faut 15 députés pour constituer un groupe. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Chef du service politique d'Europe 1. Louis, en observant les scores des uns et des autres, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, lundi, lendemain de premier tour, qu'un camp apparaît comme le grand gagnant ?
Alors, incontestablement, en nombre de voix, c'est un beau résultat pour la NUPES de Jean-Luc Mélenchon à touche-touche, juste derrière les candidats d'Emmanuel Macron arrivés en tête. Mais vous savez, ce qui compte aux législatives, ce n'est pas le nombre de voix totales, mais le nombre de circonscriptions remportées. Et là, importante différence dans les projections, principalement parce que la NUPES n'a pas de réserve de voix pour le second tour. Donc Jean-Luc Mélenchon, clairement, n'ira pas à Matignon. Jean-Luc Mélenchon peut ainsi espérer obtenir entre 150 et 190 sièges dimanche prochain, là où Emmanuel Macron est en mesure d'envoyer 255 à 295 députés. C'est beaucoup plus. Même si Emmanuel Macron aura une majorité, peut-être pas absolue, ce résultat est une véritable douche froide, un revers électoral pour le président. Son parti disposait quand même de 346 députés pendant le dernier quinquennat. Pour terminer, l'impact est relativement limité à droite, vous l'avez dit, une légère baisse, mais encore une capacité à qualifier entre 50 et 80 députés LR.
Si Ensemble ne parvient pas à envoyer plus de 289 députés à l'issue du second tour, cela signifierait que la majorité présidentielle ne serait plus absolue. Concrètement, quelles en seraient les conséquences, Louis ?
Eh bien alors, deux cas de figure. Le premier, Emmanuel Macron a une majorité absolue. Alors si c'est le cas, eh bien, elle ne sera pas écrasante. Les principaux partenaires d'Emmanuel Macron, François Bayrou et Édouard Philippe, verront leur poids politique mécaniquement renforcé. Il sera impossible de faire adopter des lois sans eux. La marge de manœuvre d'Emmanuel Macron sera donc fortement diminuée en comparaison avec le précédent quinquennat. Deuxième possibilité, pas de majorité absolue. Non seulement Bayrou et Philippe deviendront indispensables au président, qui sera moins libre de ses mouvements, mais en plus, Emmanuel Macron n'aura d'autre choix que de tendre la main à d'autres partis concurrents pour tenter d'avoir une majorité. Une ouverture presque impossible en direction de la NUPES. C'est donc vers Les Républicains, qui pourraient obtenir entre 40 et 60 députés, qu'Emmanuel Macron essaiera de se tourner. Une certitude, avec ou sans majorité absolue, pour Emmanuel Macron, le temps de la précédente législature où les projets de loi étaient adoptés facilement est terminé. S'ouvre désormais une ère avec un Parlement plus fort, des alliances de circonstances et un pays plus difficile à gouverner.
Louis Dragnel, merci beaucoup Louis. Il est midi 8, restez bien avec nous dans la deuxième partie de ce journal. On ira à Strasbourg où 4 personnes d'une même famille sont mortes dans un incendie ce matin. On va également parler de la Corse qui a trouvé un moyen radical pour lutter contre le surtourisme. Et puis on sera avec Jacques Vendroux qui va nous parler de son tout nouveau podcast. A tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
Un drame donc à Strasbourg où 4 membres d'une même famille ont péri dans un incendie tôt ce matin. 2 adultes et 2 enfants. L'incendie s'est déclaré dans leur appartement d'un logement HLM. Tatiana Gezelman, vous êtes avec nous en direct de Strasbourg. Bonjour Tatiana. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que sait-on ?
C'est au 3e étage de l'immeuble que l'incendie s'est déclaré ce matin. Hamid habite au rez-de-chaussée et en se réveillant, il a de suite vu de la fumée sortir par les fenêtres.
J'ai vu de la fumée qui sortait. Je suis monté, j'ai regardé, mais c'est impossible d'ouvrir la porte. J'ai entendu des cris des enfants et après, ils ont aspiré la fumée. Sont tombés.
Sa femme, Anissa, a donc réveillé tous les voisins pour évacuer l'immeuble. Elle reste traumatisée par le drame, d'autant qu'elle connaissait très bien la famille décédée.
Je connais, ça fait 3 ans, ils mangent chez moi, je donne la nourriture, je donne les vêtements. Ils sont gentils, ils sont des gens bien et c'est pour ça là, c'est malheur.
Sur place, de nombreux habitants critiquent l'insalubrité de l'immeuble, à l'image de Mourad, lui habitait exactement au même étage.
Déjà dans l'immeuble, il y a des cafards, il y a des voisins, il manque d'électricité par exemple. un certain temps, il y avait même le chauffage, il n'y avait pas de chauffage. Depuis 2015, un truc comme ça, la porte ne se ferme même pas.
L'immeuble devait faire l'objet de rénovation de la part du bailleur social.
Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison? Le juge des libertés va rendre sa décision dans moins de 2 heures maintenant. Le principal suspect dans l'enquête sur la mort de sa femme, Delphine Jubilard, est incarcéré depuis maintenant 1 an. Si sa libération est actée, Cédric Jubilard pourrait être placé soit sous contrôle judiciaire, soit sous surveillance électronique. C'est un phénomène qui touche la Corse depuis des années. Le surtourisme des millions de vacanciers français et étrangers se pressent pour prendre leur congé et profiter de l'île de beauté. Et on le comprend, c'est magnifique. Mais ça se fait parfois au détriment de l'environnement. Geoffrey Branger avec nous. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Pour préserver les lieux les plus prisés par les visiteurs, l'Assemblée de Corse a décidé de mettre en place des quotas annuels. Expliquez-nous.
Oui, des endroits très prisés par les vacanciers. Bavela, la vallée de la Restonica et les îles Lavezzi. Pour vous donner une idée de l'enjeu, chaque été sur les îles Lavezzi, 180 000 vacanciers se bousculent sur les 2 km carrés de terre. Les nouvelles mesures prévoient au maximum 200 000 visiteurs pour les 4 prochaines années. L'objectif, protéger l'environnement de la Corse, parce que s'il se dégrade trop rapidement, alors les touristes ne viendront plus. Selon l'Office de l'environnement de la Corse, il faut assurer une activité économique touristique durable en régulant les flux de vacanciers. Alors, dès cet été, il faudra une réservation pour accéder à ces sites, mais un point du dispositif fait encore débat. Il est prévu de donner la priorité aux résidents corses. Un test sera réalisé dès juillet pour éviter tout dérapage discriminatoire. Mais forcément, la question de la légalité de cette mesure risque de se poser. Pour l'instant, seulement 3 sites sont concernés par les quotas. Mais les élus nationalistes ne comptent pas s'arrêter là. Le mythique GR20 est aussi dans le collimateur. Ils souhaitent, dans les prochaines années, réguler les flux de ce sentier qui connaît une fréquentation record cette saison.
Voilà, ça va continuer à faire parler. Hein. Des quotas pour aller visiter les sites les plus touristiques, bon, pourquoi pas. Après, réservé aux Corses, oui, ça peut, je vous confirme, ça peut effectivement faire débat. De toute façon, ça ne devrait pas passer devant le Conseil constitutionnel. Hein. Bon. Merci beaucoup, Geoffrey Branger, avec nous. Midi 13, l'équipe de France de foot va tenter de renouer enfin avec la victoire. Les Bleus affrontent la Croatie ce soir au Stade de France. Coup d'envoi à 20h45, c'est la 4e journée de la Ligue des Nations. Rappelons le bilan des 3 premiers matchs. Match des Bleus, 2 nuls et 1 défaite. C'est ça, Jacques Vendroux ?
C'est ça, c'est
bon,
ça.
Bon, je dis pas de bêtises.
Vous êtes parfait.
Bon, très bien. Jacques Vendroux avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous lancez aujourd'hui votre podcast Les Géants. C'est un grand moment, ça. Hein, vous racontez avec des invités prestigieux les grandes épopées du foot français. Il y a déjà 5 épisodes, Jacques. Hein.
Déjà 5 épisodes et grâce à Europe 1, je réalise mon rêve. Parce que je voulais raconter l'histoire des grandes équipes de football. Le thème, c'est une équipe, une aventure et un homme. Et on commence par Laurent Blanc, qui était donc l'un des leaders de l'équipe de France de football en 1998, qui a été championne du monde. On continue avec Jean-Michel Larquet, qui a été le leader de l'équipe de Saint-Étienne, ce qu'on appelle les vrais verts de Saint-Étienne, qui était en finale de la Ligue des champions en 1976. Après, un souvenir... Reginald Beck, ça vous dit rien? C'était le capitaine de l'équipe de football de Calais qui s'est retrouvé en finale de la Coupe de France en 2000, des amateurs de 4e division à la surprise générale. Hey. Toute la France était calaisienne. Michel Denisot, qui reste pendant près de 8 ans président du Paris Saint-Germain et qui nous raconte avec une émotion incroyable, je veux dire, sa présidence. Et on termine par... un souvenir aussi merveilleux, la grande équipe de Nantes d'Éric Pécou, 79-80, avec Bertrand Demann, Bossis, Ali Lodzic, Amis. Ils sont champions de France, ils gagnent la Coupe de France et ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions. Ça fait partie des grandes équipes du passé. Et moi, je me dis très modestement, il faut dire justement à tous ces jeunes qu'avant eux, il y avait des grands footballeurs. Il y avait des grandes équipes et si maintenant on existe quelque part, c'est aussi grâce à eux.
C'est aussi grâce à eux. Laurent Blanc, donc ça sort aujourd'hui, épisode 1, équipe de France, 98, championne du monde. Mais j'ai une question à vous poser Jacques, mais on ne sait pas déjà tout de 98?
Non, parce que Laurent Blanc...
On apprend des choses là.
Non, parce que Laurent Blanc, d'abord c'est un ami et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a travaillé, il a noté tout ce qu'il voulait dire et pas dire, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments... d'émotion, par exemple, une anecdote incroyable quand l'équipe de France se qualifie, je veux dire, avec le but en or contre le Paraguay à Lens. Il y a Fabien Barthez qui vient féliciter Laurent Blanc qui a marqué le but en lui disant « ça y est, on est qualifié pour la demi-finale, etc. » Et Fabien Barthez dit à Laurent Blanc, maintenant on va jouer défensivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on prenne de risques. Ouais. Il faut qu'on soit tous derrière.
Faut verrouiller.
Et il faut verrouiller. Et Laurent Blanc lui dit, mais attends, Fabien, sois concentré. C'est le but en or. On est qualifié. Il n'y a pas de suite. Il était tellement dans son match, Fabien, qu'il ne savait pas que le match était terminé au moment où il fallait marquer. Et il y a plein d'anecdotes comme ça sur Larquet, sur Beck, sur Deniso, sur Éric Pécou.
Oui, Éric Pécou. Alors, pour être très honnête, Laurent Blanc, évidemment, je le connais, bien sûr. Larquet aussi, Deniso aussi. Réginald Beck, vous en avez parlé, ça ne me disait rien comme ça. Et Éric Pécou non plus.
Éric Pécou, c'était un avant-centre extraordinaire du Football Club de Nantes, mais il a surtout joué avec une merveilleuse équipe de Nantes. Vous savez, le jeu à la nantaise, avec Jean-Claude Thuodot, avec Reynald Denouex, etc. C'est une équipe dans les années 80, était la meilleure équipe de France. Et c'était une équipe qui faisait rêver parce qu'elle jouait bien au ballon, à un toucher de balle, comme on dit techniquement. Et donc, c'était des artistes. Et c'est une équipe qui a marqué, avec surtout un capitaine, là, vous allez connaître, Henri Michel.
Oui,
Henri
oui,
Michel,
oui.
Qui était le capitaine de l'équipe de France de football, qui a été le capitaine de Nantes, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France de football. Donc, si vous voulez, c'est une période de la vie du football qui est extrêmement importante. Et je le répète, à tous les jeunes, je veux leur dire une nouvelle fois par le biais d'Europe 1, ce qui est formidable, c'est qu'il faut savoir qu'il y avait des joueurs avant eux, il y avait des entraîneurs avant eux, et que maintenant, les équipes de Reims, du Paris Saint-Germain, de n'importe quelle équipe, eh bien, il faut qu'ils sachent une nouvelle fois qu'il y avait des héros avant qu'eux-mêmes soient héros maintenant.
Merci beaucoup Jacques Vendroux. Jacques Vendroux qui est venu parler donc de ce nouveau podcast. Ça
et merci à Sébastien Guyot qui a fait un travail extraordinaire.
Qui a réalisé, voilà, vous avez interrogé.
C'est un magicien.
Un magicien, voilà, on le salue, Sébastien Guyot. Merci beaucoup Jacques Vendroux, Les Géants, le nouveau podcast sur les grandes épopées du foot français avec Jacques Vendroux. Merci d'être venu Jacques. La météo, vous avez reconnu la petite musique de la météo. Anissa Dadi avec le premier jour d'une semaine estivale et caniculaire. Hein.
Oui, les températures vont franchir un cap cette semaine, en effet, Romain, avec des records à partir de mercredi, où nous pourrions avoir dans le sud de la France jusqu'à 40 degrés. On va surveiller ça de près. Vendredi et samedi seront les journées les plus chaudes de la semaine. Alors pour aujourd'hui, c'est encore assez respirable. Dans le sud, les températures sont très élevées. 36 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 35 pour Nîmes, 34 à Montpellier et Marseille, 32 à Gap, 30 à Bastia, Lyon et Brive, 29 du côté de Chambéry, 28 pour Ajaccio, 26 à Clermont-Ferrand. Sur la moitié nord, c'est plus respirable avec 24 degrés à Paris, 23 à Metz et 20 à Caen. Dans le ciel, pas grand-chose à vous signaler à part un soleil radieux. Quelques petits nuages vont se former près des massifs cet après-midi. Les Alpes, le Massif central et les Pyrénées avec un risque d'orage en altitude.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 19. Restez bien avec nous dans un instant. On va décrypter les résultats de ce premier tour des élections législatives avec vous au 39-21 et avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et avec Antoine Léaumont qui est responsable numérique de la France Insoumise. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Ensemble et la NUPES en face à face. Les deux camps ont 5 jours de campagne de second tour des législatives pour amplifier ou non la tendance. On en parle avec vous, vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne, vous dites votre point de vue, vous dites ce que vous en pensez. On est également avec Prisca Thévenot, porte-parole LREM, et avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Prisca Thévenot, La République En Marche a des mots durs depuis ce matin pour parler de la NUPES. La ministre Amélie de Montchalin parlait d'anarchistes d'extrême gauche. Vous les qualifiez comment, les candidats de la NUPES ?
Alors, de façon très claire, et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises sur votre antenne, je ne combats pas des hommes et des femmes, mais plutôt des idées, des projets de société. Et oui, c'est un secret pour personne, la majorité présidentielle a un projet de société qui est à l'opposé de celui proposé par la NUPES. La NUPES, d'ailleurs, qui, soyons très clairs, est une alliance de circonstances, une alliance qui, du coup, est un peu bancale, parce que sur un certain nombre de sujets, nous ne savons pas vraiment où ils veulent aller. Le seul enjeu qu'ils ont, c'est effectivement d'écrire, de poursuivre le destin politique d'un homme, qui est Jean-Luc Mélenchon. Or, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir écrire les semaines, les mois à venir, les années à venir, pour l'ensemble des Françaises et des Français, pour le pays, sur l'Europe, sur le pouvoir d'achat, sur également le sujet de la transition écologique, sur le sujet de la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Nous sommes alignés, unis et soudés. Cette union est nécessaire, elle existe déjà, elle existera demain à l'Assemblée nationale au sein du groupe de la majorité présidentielle. Vous nous dites demain au sein de la NUPES que vous serez unis, vous n'êtes pas capable de l'être déjà sur les points que je viens d'évoquer.
Antoine Léaumont, vous êtes une alliance bancale, dit Prisca Thévenot.
Non, je ne crois pas. Ça, c'est ce qu'essaye de dire la Macronie pour essayer de créer une ambiance de désordre. Ce n'est pas le cas. Nous sommes rassemblés autour d'un programme partagé. Il y a quelques points, effectivement, sur lesquels nous avons des désaccords, mais ils sont clairement indiqués dans notre programme partagé. Donc, les gens peuvent aller se renseigner sur le sujet sur notre site Internet. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous sur un point. C'est un deuxième tour, au final, entre deux projets. D'un côté, il y a la NUP qui propose le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans qui propose d'augmenter les retraites à 1500 euros pour une carrière complète et de faire la garantie d'autonomie pour les jeunes pour qu'ils puissent aller étudier et ne faire qu'étudier avec une garantie d'autonomie de 1063 euros par mois. Et en face, il y a LREM. On connaît, ça fait 5 ans qu'on vit ça, ça fait 5 ans qu'on n'en peut plus et on sait très bien que ça va être la retraite à 65 ans, pas d'augmentation pour le SMIC, rien pour les retraités et rien pour les jeunes. Je veux dire, c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'on a eu des jeunes qui faisaient la file d'attente à l'aide alimentaire. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui de notre pays. Il y a eu une situation de pauvreté grandissante dans notre pays. Je rappelle qu'il y a 2000 morts de la rue chaque année. Rien n'a été fait. C'était la promesse d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu en 2017. Rien n'a été fait pour sortir les gens de la rue. Nous sommes ceux qui voulons faire en sorte que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête.
On est en direct avec Alain. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous êtes mécanicien poids lourd. Vous nous appelez d'où ?
Quimper.
Quimper. Bon. Vous dites que vous êtes un petit peu inquiet par les résultats, à cause des résultats de ces législatives. Pourquoi ?
J'ai quelques inquiétudes, c'est sur la suite des événements, on va dire. Parce qu'il y a quand même dans ce mouvement, dans le mouvement, plusieurs ex-présidents également qui ont une identité, des égos, des choses comme ça. Et il y a un programme effectivement en commun qui a été fait. Mais le jour où il va falloir décider des priorités justement de ce programme en commun et de budgétiser, est-ce que là, il n'y aura pas des dissensions ?
Vous parlez de la NUPES, l'alliance autour de Mélenchon. Hein. En clair, vous dites, en fait, c'est ce que vient de dire, c'est ce dont vient de parler Antoine Léaumont, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets, mais ça va coûter cher.
Je pense que oui, il y aura des priorités à mon avis, après savoir lesquelles seront justement approuvées ou mises en place. Mais il y a des bonnes idées, il y a plein de choses à faire effectivement, je trouve, énormément de choses à faire. Mais voilà, lesquelles ressortiront vraiment et est-ce qu'il n'y aura pas trop de dissensions justement pour prendre ces décisions ?
Ah oui, c'est-à-dire que là, tout est beau et on nous promet la lune parce que c'est la campagne présidentielle, la campagne des législatives, pardon, du second tour, la présidentielle est passée. Mais quid après, effectivement, il y a l'inflation, il y a les taux d'intérêt qui augmentent. Il y a des questions, hein, Antoine Léaumont.
Oui, alors je comprends ce qui vous inquiète, Alain, qui est finalement ces gens qui avant n'étaient pas ensemble, sont-ils capables de gouverner le pays ensemble ? En fait, on a un petit peu oublié comment fonctionne normalement une démocratie. Il y a un gouvernement qui décide normalement de manière collégiale, et le gouvernement définit collégialement les priorités, puis ensuite porte les projets devant l'Assemblée nationale, et devant l'Assemblée nationale, on peut voter pour ou voter contre ces projets. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas écouter les 10 heures de mauvaise aventure. On a en réalité la possibilité encore de remporter cette élection législative. On est au deuxième tour dans 406 circonscriptions. Il en faut 289 pour que Mélenchon devienne Premier ministre et qu'on gouverne le pays. C'est tout à fait atteignable, mais il y a un mais. Il faut que ceux qui se sont abstenus au premier tour de l'élection législative aillent aux urnes. Et clairement, on pourra emporter cette élection.
Midi 27, on est avec Antoine Léaumont, on est avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Et Alain, j'aimerais bien que vous restiez avec nous. Il y a une petite pub, ensuite un flash et on se retrouve juste après. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bienvenue à tous. Le débat continue dans un instant, mais tout de suite, c'est le flash, le rappel de l'actualité avec vous, Émilie Dès. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain. Aucune voix ne doit aller au RN ni au candidat NUPES qui ne respecte pas les valeurs républicaines. L'appel d'Elisabeth Borne au lendemain du premier tour des législatives. Les consignes de vote se feront donc au cas par cas. 58 duels opposeront l'Union des Gauches au parti de Marine Le Pen au second tour des législatives. À ce stade, seules quelques 21 000 voix par la majorité présidentielle de l'Union des Gauches. Le parti présidentiel peut espérer 255 à 295 sièges selon les instituts de sondage, à peine plus que la majorité absolue fixée à 289. La NUPES accuse le ministère de l'Intérieur de tripatouillage, autrement dit de n'avoir pas décompté toutes les voix qui lui reviennent au premier tour des législatives. Le ministère assure de son côté s'en tenir aux listes de candidats déclarées par l'Alliance de la Gauche. Emmanuel Macron demande une réévaluation de la loi de de programmation militaire pour ajuster les moyens aux menaces sur fond de guerre ukrainienne. L'armée ukrainienne dit avoir été chassée du centre de Severodonetsk, ville clé de l'est du pays. Les combats de Russes se poursuivent, assure le gouverneur local. Il sera fixé sur son sort tout à l'heure à 14h. Cédric Jubilard, incarcéré depuis presque un an, sa femme Delphine a disparu depuis décembre 2020. Deux adultes et deux enfants sont morts dans l'incendie de leur appartement à Strasbourg. Selon le bailleur social, l'immeuble où ils vivaient devait faire l'objet de travaux prochainement. Et puis du foot, la France affronte la Croatie ce soir en Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve dans une demi-heure à 13h pour un prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi, on est avec vous. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. On est également avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Et on est toujours en direct avec vous, Alain, depuis Quimper, mécanicien poids lourd. Vous aviez des questions sur le projet de la NUPES. Vous dites, c'est bien beau de proposer le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, des revenus jeunes, mais comment tout ça va être financé? Je résume bien votre point de vue, Alain?
Ah, c'est une question que je pose, parce qu'il y a des très bonnes idées là-dedans.
Oui.
Il y a de très bonnes idées, il y a beaucoup de, justement, d'autres parties, des fois, pour s'inspirer aussi certaines choses. Mais voilà, on a du mal à trouver son identité dans un parti, on va dire. Il y a plein de bonnes idées dans différents partis, mais on a un peu de mal. Et après, effectivement, il y a la question du financement de tous ces projets-là, parce que l'Europe aussi nous bloque un petit peu, on va dire, parce qu'on risque finalement de payer des amendes si jamais on a des dépassements de budget. Ça, c'est un peu contraignant. Mais voilà.
Prisca Thévenot, Antoine Léaumont vous écoute.
Alors, merci beaucoup Alain pour votre question qui était très claire, effectivement, qui pose la question du financement de l'ensemble des mesures dont les Français et les Françaises ont besoin au quotidien, et ça, il n'y a pas de débat. Je pense que la réponse de Monsieur Léaumont a été très claire, c'est-à-dire qu'il vous a appelé à voter pour la NUP sans répondre très clairement à votre question. Je vais vous le dire de façon très claire, oui, nous devons faire en sorte que chaque travailleur et chaque travailleuse en France puisse vivre dignement de son travail. Nous devons faire en sorte que la charge fiscale, la pression fiscale sur l'ensemble des travailleurs s'allège. C'est ce que nous avons fait au cours de ces 5 dernières années, aussi bien pour les entreprises, mais aussi et surtout pour l'ensemble des ménages français. Et nous devons continuer. Oui, nous devons agir aussi pour les plus fragiles d'entre nous, bien évidemment, les travailleurs précaires, les personnes au SMIC. C'est ce que nous avons fait au cours des 5 dernières années. Et c'est ce que nous allons continuer à faire avec notamment l'allègement des charges sociales et les différentes primes d'activité, dont la prime Macron. Mais nous devons aussi travailler sur les plus fragiles d'entre nous, qui sont les retraités. Et nous proposons dès le mois de juillet, décidément, les jours vont vite, dès le mois de juillet, de pouvoir revaloriser les pensions de retraite. Vous voyez, encore une fois, les belles promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient, mais je vous invite, et vous le faites très justement, monsieur, à regarder aussi ce que ça implique pour demain. Aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Terra Nova, un think tank qui n'est pas la majorité présidentielle, qui est indépendant, et qui le dit de façon très claire, le programme économique proposé par Jean-Luc Mélenchon, par la NUP, reviendrait pour la France, à avoir des impacts économiques tels que la Grèce a pu les connaître au pire moment de sa crise économique.
Donc vous nous dites, si on applique le programme de la NUP, ça fait couler l'économie française.
Non, ce sont des belles promesses. Ce sont des belles promesses. Je pense que nous avons aujourd'hui besoin d'une parole politique responsable. Et être responsable, ce n'est pas simplement dire à qui veut l'entendre, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela. C'est expliquer aussi comment on engage notre société, comment on engage nos enfants.
Alors, je pense que Madame Thévenot, vous n'avez pas bien regardé ce que nous avions fait pendant la campagne présidentielle.
Non, je ne l'ai pas regardé, je l'ai lu.
Nous avons fait une émission de chiffrage du programme dans laquelle on est revenu sur l'ensemble de ces propositions. Notre programme, il est chiffré, il est financé. Après, il a...
257 milliards d'euros. Hein.
Mais le résultat de la dépense publique qu'on engage, c'est une dépense publique qui est à destination de ceux qui ont le moins d'argent. Ceux qui ont le moins d'argent, ils ne vont pas spéculer sur les marchés financiers. Ceux qui ont moins d'argent...
Non, mais l'éternel rengaine...
Ça fait tourner le système économique. Mais je vais vous répondre simplement sur un point bien précis.
Si ça fait autant tourner le système économique, pourquoi pas 400 milliards d'euros? Ça fera tourner encore plus.
Parce qu'il faut rester dans le raisonnable. Mais non, parce que si on dépense 400 milliards d'euros, vous allez avoir une inflation qui va être telle que vous n'arriverez pas à rattraper avec le niveau des salaires. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'un côté augmenter les salaires pour que les gens puissent faire face à l'urgence sociale.
C'est pas le gouvernement
et de l'autre
qui décide
côté, ça. Et de l'autre, bah, le SMIC, si, c'est le gouvernement
qui décide.
Mais attendez,
et le privé, comment on fait ? Ça, c'est un mensonge.
Le privé,
en fait.
Le privé, attendez,
en fait, que vous êtes
je vous ai
en train...
laissé parler tout à l'heure assez longuement.
Mais là, longuement. C'est un mensonge.
Et si, non, le SMIC, c'est un décret gouvernemental. Et ça s'applique.
Vous allez créer plus de chômage, monsieur, vous le savez.
Et ça s'applique également dans le privé. Maintenant, je veux prendre un exemple très concret comme le blocage des prix, par exemple. Mmh. Le blocage des prix, on n'arrête pas de nous dire, c'est pas possible, ça a créé de la pénurie, etc.
Ça
etc.
existe pour le prix des énergies aujourd'hui.
Savez-vous que ça existe sur l'île de la Réunion ?
C'est particulier.
Savez-vous que sur l'île de la Réunion, actuellement, le gazole est à 1,46€ parce qu'il est bloqué par la préfecture. Si c'est possible dans un département français, pourquoi ça ne le serait pas dans les autres ? Donc, on voit bien que...
Parce que ce n'est pas la même échelle.
Mais, bien sûr, mais précisément, ce n'est pas la même échelle.
Et
nous avons une masse critique dans l'Hexagone et les départements d'outre-mer, précisément pour que les grands groupes pétroliers aient besoin de ce marché et donc soient obligés d'accepter les conditions étatiques. Total a fait les plus grands bénéfices de son histoire. Rassurez-vous, ils vont très bien chez Total. Donc, si on veut financer le programme de l'ANUP, c'est assez facile. Je vais jusqu'au bout. Nous voulons changer le système de l'impôt pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € aujourd'hui payent moins d'impôts, mais que ceux qui gagnent plus de 4 000 € payent plus d'impôts. Nous rétablirons l'ISF et nous l'augmenterons, par exemple. Maintenant, je veux poser une question à Mme Thévenot, parce que vous dites, enfin, vous ne le dites pas aux Français, parce qu'aux Français, vous ne dites pas grand-chose. Mais vous avez vous avez dit à la Commission européenne que vous alliez faire 80 milliards d'euros d'économies. 80 milliards d'euros d'économies, c'est le budget de la police et de l'éducation nationale, ensemble, ok ? Vous allez financer ça comment, s'il vous plaît, 80 milliards d'euros d'économies ? Moi, je vous soupçonne d'une chose, vouloir augmenter la TVA. Vous voulez augmenter la TVA.
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au sein de la NUP, je me permets, c'est que pour redistribuer de la richesse, et ça je suis complètement d'accord avec
vous. On n'a jamais été aussi riche.
Et donc il faut pouvoir travailler.
Sinon, c'est que vous avez mal travaillé.
Si vous êtes riche à la NUPES, tant mieux pour vous. Maintenant, je vais prendre un exemple très concret.
Le PIB de la France.
Je vais prendre un exemple très concret. Je crois, monsieur qui nous écoutait, vous êtes chauffeur poids lourd, si je ne me trompe pas.
Mécanicien poids lourd.
Et donc, effectivement, par exemple, prenons un exemple. Vous êtes chauffeur poids lourd, j'avais pas compris qu'il y avait mécanicien poids lourd, mais peu importe. Vous transportez toute la journée, pour votre travail, pour votre rémunération, des biens et des marchandises. Mmh. Ces biens et ces marchandises ont un prix. Et donc si demain vous expliquez aux gens qui fabriquent ces biens et ces marchandises que le prix sera bloqué et qu'ils ne pourront plus faire de marge dessus, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils vont arrêter de produire, soit ils vont débaucher et ils vont arrêter d'embaucher des gens.
Ils feront moins de marge.
Les deux. Le monsieur qui nous écoute, il n'aura juste plus de travail demain.
S'il n'y a plus de marge, les entreprises peuvent
faire. Total
a fait les plus gros bénéfices de Total.
Il n'y a pas que Total,
il y a Carrefour, vous avez raison, il y a assez d'entreprises du CAC 40 qui ont fait assez de bénéfices.
Vous caricaturez, ce n'est pas
possible. Récupérer sur les bénéfices. Le gros problème dans notre pays, c'est que pendant des années, là actuellement ce que vous faites, vous êtes en train de faire financer par l'ensemble de la population avec des chèques, machin, etc. dans tous les sens,
ça vous plaît des pas bénéfices. Les gens
vous êtes en train de faire financer des bénéfices pour les grandes entreprises, alors qu'il faut maintenant que les grandes entreprises mettent la main à la poche.
On est en
c'est
direct avec
faire.
Kérima qui nous appelle de Paris, 40 ans, chargée de communication. Bonjour Kérima.
Bonjour.
Vous dites, merci d'être avec nous, déjà, d'avoir appelé le 3921, d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Vous dites, je ne suis pas étonnée par les résultats des législatives. Pourquoi ?
Bah écoutez, je ne suis pas étonnée. De toute façon, il y a eu une campagne sans avoir une campagne. Je pense que Emmanuel Macron a fait campagne seul. Les candidats sur le terrain dans Mars, ce n'est pas des candidats très connus, mais je ne suis pas très étonnée par ce résultat. Et puis voilà, j'ai vu hier que la France insoumise était heureuse des résultats, mais sans la coalition, ils auraient fait combien ?
Oui.
Ils auraient fait 10 à 12%. Mmh. Je veux dire, c'est quand même dramatique le résultat de la gauche actuellement en France. C'est qu'en faisant une coalition avec les trois grands partis de ce pays, ils ne font que 25,6%.
Alors
c'est
pourquoi ça
peu.
Pourquoi ça fonctionne pas selon vous, pas assez moi, à votre goût.
Pour moi, je pense que ça ne fonctionne pas parce que la France insoumise, c'est un oubli global de gens déjà qui ne sont pas d'accord sur les idées. Et d'une part, vous avez des communautaristes, vous avez des racialistes indigénistes.
Et ça vous fait peur.
Ah bah écoutez, c'est plus que flippant parce que à la limite, Mélenchon pour un gueulard, on a connu ça. Pas moi, mais mes parents ou même mes arrière-grands-parents ont connu ça avec Georges Marchais, Gueulard et compagnie. Mais c'est pas la même chose. Là. C'est ce qui veut dire que dans son parti à lui, il a quand même des gens comme Obono, qui sont quand même des candidats assez dangereux.
Sur les histoires du burkini, par exemple, le port du burkini, vous savez, dans les piscines autorisées à Grenoble là, par les écologistes, qui représentent une partie de l'extrême-gauche, attendez, sera examiné demain au Conseil d'État. Par exemple, ça, il aurait dû dire non au burkini dans les piscines.
Bah, il aurait dû dire non, mais de toute façon, elle le dit très très bien. Aurélia Bouteldiat, elle dit que Jean-Luc Mélenchon est un butin de guerre, qui l'ont fait revenir sur des idées qu'il avait, comme la laïcité, le port du voile, où il était contre. Elle dit, on est arrivé à le faire revenir sur ça, mais vous vous rendez compte? Ouais. Pour moi, actuellement, la France insoumise telle qu'elle est actuellement, c'est dangereux et il faut les faire battre.
Elle est dangereuse. Antoine Léaumont de la France Insoumise vous répond.
Oui, c'est le burkini, ça ne met pas de l'essence dans la voiture à la fin du mois. Et ça, c'est la diversion systématique qui est faite contre nous. Alors, il y a un coup ça, un coup l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Et un coup... ça n'existe pas. Les universitaires qui en étaient accusés par la ministre de l'université à l'époque, s'en souviennent très bien. Mais l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. On nous prête des propos sur la police que nous ne tenons pas. Oh. Et ça, c'est les deux sujets de diversion permanents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que le système continue tel qu'il est à l'heure actuelle. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'ISF ne soit pas rétabli. Ils sont très bien, ils sont très riches, ils vont très bien, tout va bien. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que la fraude et l'évasion fiscale puissent continuer tranquillement avec des suppressions de postes chez les contrôleurs fiscaux, comme ça a été fait dans les années précédentes.
L'ISF, il a été modifié.
Il a été modifié.
L'impôt sur la fortune immobilière existe encore.
Exactement, si vous voulez, on peut détailler. Mm. C'est l'impôt sur la fortune mobilière qui a été supprimé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'impôt sur les actions. C'est ça qui a été supprimé. C'est-à-dire que précisément, on a poussé dans ce gouvernement à la spéculation financière, et ça, c'est de l'argent qui vient pas dans l'économie réelle. Donc il faut arrêter de se moquer du monde, et à un moment donné, il faut aller récupérer l'argent où il est, et tous les sujets de diversion qui sont faits pour diviser les Français entre eux, ils sont faits pour une seule et unique chose, c'est pour que le système puisse perdurer, et nous voulons faire en sorte de le changer.
Merci Kerima de nous avoir appelé au 3921. Très bonne journée à vous. 12h43, on reste ensemble. Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. On est avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et avec Antoine Léaumont, qui est responsable de la communication numérique de la France Insoumise. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h47. Emmanuel Macron aura-t-il ou non la majorité absolue à l'Assemblée nationale ? C'est possible, mais loin d'être gagné d'avance. On en parle avec vous au 39-21. On sera dans un instant en direct du Val-de-Marne avec Patrice. On est également avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique à la France insoumise. Je voudrais qu'on parle des consignes de vote. C'est pas très très clair, les consignes de vote du côté de La République En Marche, du côté de Ensemble. Il y a Clément Beaune, qui est ministre, hein, qui dit à titre personnel, en cas de duel Rassemblement National NUPES, je voterai NUPES. Bon, voilà, un ministre. LREM dit on va faire du cas par cas. Bon, ce qui sous-entend que tout est possible. Et Elisabeth Borne dit rien pour le Rassemblement National. Qui faut-il suivre ? Qui faut-il croire ?
C'est très simple, en fait. Depuis le début, au sein de la majorité présidentielle, donc de La République En Marche et effectivement de l'ensemble des familles politiques qui nous ont rejoints, nous avons un principe et une réponse claire. C'est face aux extrêmes, front républicain, barrage républicain. Donc oui, et là je le dis aussi à titre personnel, mais aussi en tant que porte-parole de La République En Marche, pas une voix pour le Rassemblement National. Nous sommes très clairs. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va se jeter à pieds joints face à une candidature à soutenir qui serait contre nos forces de l'ordre, qui crieraient à tue-tête « la police tue » ou « la police a le droit de mort » ou qui voudraient absolument en revenir et être sur la désobéissance européenne, je pense que nous avons le droit à la nuance. Et je pense que oui, nous devons être dans un discours de clarté vis-à-vis des Français sur ces points-là. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, et je pense que M. Léaumont va me rejoindre, en tout cas c'est le débat que j'ai eu avec Manon Aubry ce matin, c'est que cet entre-deux-tours nous permet, pour une fois, d'avoir un débat de fond. Nous avons deux projets de société radicalement opposés qui s'affrontent. Ne réduisons pas ces 5 jours qui nous restent avant le silence républicain du second tour à nous consacrer, à nous focaliser sur 58 circonscriptions. Pourquoi 58 ? Parce que oui, c'est sur 58 circonscriptions, sur 577, où il y a effectivement un duel NUP-RN. Regardons plus globalement, les Français demandent un débat de fond. Ce débat de fond est nécessaire aussi pour la participation de dimanche prochain.
À l'instant, Stanislas Guérini écrit « Soyons très clairs, pas une voix pour le RN face à Marine Le Pen. J'invite à voter Marine Tondelier au second tour des élections législatives. » Il appelle à voter pour la candidate NUPES.
Oui, bah de la même façon, Elisabeth Borne l'a très bien dit ce matin par rapport à M. Roussel. Il n'y a pas de débat, monsieur Roussel, sur la laïcité. Il est très clair. Sur le rapport aux forces de l'ordre, il est très clair. Il a les valeurs républicaines que nous avons tous chevillées au corps et celles de notre France.
Aujourd'hui, le patron de l'REM appelle à voter pour une candidate NUPES et dans un mois ou à la rentrée, vous allez voter avec des candidats
non, mais
LR.
Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que la NUPES ? C'est un assemblage d'étiquettes politiques. Il y a effectivement PS, Europe Écologie Les Verts.
Ça n'a rien compris.
Mais en fait, quelles sont... Non, mais je suis très claire.
Ah non, c'est pas vous en l'occurrence, c'est la
quelles
situation.
Quelles sont leurs lignes ? Donc oui, sur ces 58 circonscriptions, oui, vous avez un programme. Mais par exemple, monsieur Roussel, il n'est pas d'accord avec votre positionnement sur la laïcité. Monsieur Roussel, il n'est pas d'accord avec votre positionnement sur les forces de l'ordre.
Un électeur de LR qui vote LR va voter pour un parti qui pourra
LR
voter...
ou l'AREM ?
Non, LR, les Républicains, qui pourra voter avec vous, si vous n'avez pas la majorité absolue, qui pourra voter avec vous des textes alors que vous avez appelé à voter pour la gauche, et voire l'extrême gauche.
Je ne comprends pas, LR et RN, là, je comprends pas.
Si, LR, les Républicains, vous aurez besoin d'eux si vous n'avez pas la majorité
alors,
absolue.
Alors attendez, on parle justement, merci pour ce sujet qui est extrêmement important. On parle beaucoup de comment on va se comporter à l'Assemblée nationale lundi prochain. Et je suis d'accord, c'est important et les Français ont besoin de réponses. Mais avant de promettre, peut-être regardons ce qui se passe déjà dans le cadre de cette campagne. Moi, j'aimerais savoir comment la direction des LR, qui je crois se réunit en début d'après-midi aujourd'hui, va se comporter sur les 5 jours de campagne qui nous restent. Parce que c'est bien de vouloir dire être dans une opposition constructive. C'est important, c'est nécessaire pour apporter des nuances sur un socle commun. Mais voyons déjà comment ils se comportent maintenant en campagne. N'attendons pas demain. Regardons les actions.
Moi, Antoine Léaumont et ensuite on est avec
Patrice. Moi, j'ai vraiment un point d'accord avec vous. Je trouve que finalement, nous avons dans cette élection législative le deuxième tour qui nous a été volé à l'élection présidentielle par Marine Le Pen et qui n'a pas permis qu'il y ait un débat en réalité sur deux projets de société.
Comment
parce
ça a volé par Marine Le Pen
parce qu'elle a été qualifiée au second tour. Donc,
ça s'appelle la démocratie.
C'est une formule pour vous faire comprendre qu'il y a plein de gens qui espéraient pouvoir avoir ce débat de second tour et qui nous a glissé entre les deux.
Mais le vol, c'est une formule choc.
Ah ben oui, que voulez-vous ? On est un peu choc. Mais il y a au moins un sujet sur lequel on est d'accord, c'est que là, il y a deux projets de société sur lesquels il faut débattre. Nous avons en quelque sorte une option préférentielle pour les pauvres. Nous voulons faire en sorte que ceux qui ont le moins aient davantage et que ceux qui ont beaucoup aient un petit peu moins parce que quand il y a des gens qui meurent dans la rue, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui puissent s'enrichir au point où ils le font.
Patrice est avec nous, 44 ans, du 94, cadre commercial. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Pour moi, LREM ne doit pas donner de consigne de vote. Expliquez-nous pourquoi.
Effectivement, parce que quand on voit par exemple Elisabeth Borne et Madame Thévenoud pourra peut-être le confirmer, a fait lors d'une vidéoconférence avec l'ensemble des candidats, elle s'est exprimée, je cite, « Quand Jean-Luc Mélenchon prétend être Premier ministre, c'est surtout le premier menteur. Me confirmez-vous ces dires ?»
Je ne sais pas à quoi vous faites référence.
Il y a eu une vidéoconférence apparemment ce matin avec l'ensemble des candidats.
Je suis en plateau en fait.
D'accord. Désolé. Donc, voilà, c'est une information que j'ai eue. Donc, en fait, je considère que le parti gouvernemental ne doit pas donner de consigne de vote, parce que d'un côté, il va y avoir des critiques par rapport à Jean-Luc Mélenchon, par rapport à la NUPES. La NUPES, c'est quoi ? C'est une coalition de divers mouvements qui, parfois, sont complètement opposés au niveau des convictions. Donc, c'est une coalition assez artificielle pour essayer d'arriver à une certaine majorité. Effectivement, au niveau Jean-Luc Mélenchon, effectivement, de par ses annonces en tant que Premier ministre, ça a été un coup de force, mais il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc, notre président Macron l'a bien confirmé. Voilà. Donc, je pense que le parti gouvernemental ne doit pas donner de consigne de vote et ne doit pas aller dans cette mesure-là. Voilà, ce sont les électeurs qui vont choisir.
Et la démocratie fonctionne. Merci beaucoup, exactement. Patrice. Merci de nous avoir appelé dans Europe Midi. Allez, Antoine Léaumont.
Et s'il y a davantage d'électeurs au second tour, ça ne sera pas dommage pour la démocratie non plus.
Exactement. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez encore le faire. Si vous savez que vous ne serez pas là dimanche, vous pouvez faire une procuration ou vous portez mandataire si vous savez que vous pouvez être là.
Merci Prisca Thévenoud, porte-parole de La République En Marche. Merci Antoine Léaumont, responsable du numérique, de la communication numérique de la France.
Insoumise. Et merci à vous de nous avoir appelés au 3921. On se retrouve demain midi pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour
et bonne
Romain.
Émission.
Merci à vous Romain. On vous retrouve demain pour Europe Midi.